France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit un artiste pour qui chaque sortie, chaque phrase, chaque apparition, chaque rime est parfaitement soignée. Un artiste qui avance avec une précision chirurgicale mais qui arrive toujours à toucher quelque chose de profondément humain, voire de vulnérable. Dinos est avec nous ce soir et s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il s'apprête à vivre un moment rare, un moment qu'on peut compter sur les doigts d'une main dans une carrière de Zaccord Arena les 21 et 22 décembre prochains. Deux dates pour clore une année où il n'a jamais cessé d'avancer et de surprendre, de dates qui ressemblent déjà à un rendez-vous avec son public, mais aussi un rendez-vous avec lui-même. Parce qu'en parallèle, Dinos a offert Triple A, un projet évolutif qui cristallise tout ce qu'il sait faire, la plume précise, les obsessions qu'on lui connaît, mais aussi de nouvelles prises de risque, une musicalité qui s'étire, qui explore, qui s'ouvre. Alors ce soir, on va parler de tout ça, de ses concerts, de ce rapport à la scène et de ce projet Triple A, de ce qu'il raconte d'un artiste qui finalement ne cesse jamais de se reconstruire. Dinos, notre invité, à la régulière.
France Inter, à la régulière, Mehdi Maizi.
Comment ça va, Dinos?
C'est élogieux ce que tu as dit sur moi.
C'est ce que je pense.
Merci, merci.
C'est ce que je pense.
Merci.
Comment tu te sens là, donc à l'aube de ces deux dates, donc deux Bercy, la dernière fois qui était à Bercy, c'était en 2023, j'ai l'occasion de te voir. Là, tu reviens pour donc une double date. Comment tu es avant cet événement?
Écoute, je me sens bien, je me sens confiant. En réalité, je crois que les concerts, tu te rends compte de ce qui va se passer, genre une heure avant.
Ok.
Une heure avant,
tu vois. Avant, c'est un peu impalpable, en fait.
Ou quand tu vois, quand t'arrives dans la salle.
Ok.
Ouais, le moment où t'arrives dans la salle, donc c'est le jour J, je pense. Tu vois, quand tu vois le set, quand tu mets les ears, quand tu commences à balancer.
Ouais.
Quand tu fais le soundcheck, et c'est là que tu te rends compte de ce qui va se passer. Avant ça, j'ai pas vraiment le... Avant ça, je suis en chill.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excitation plus que ça ou de crainte. Ça fait, c'est vraiment quand le jour arrive que tu te rends compte de ce qui va se passer, du nombre de gens qu'il y aura.
Ouais.
Ok.
Avant ça, c'est juste un concert. En fait, avant ça, c'est quelque chose que tu imagines, c'est quelque chose qui est dans ta tête, c'est un concert qui va se passer. Mais quand tu rentres dans la salle, tu vois l'envers du décor et tu te dis, ah ouais, on y est.
Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que les gens qui te suivent depuis longtemps, depuis l'époque où tu t'appelais Dinos Punchlinovic, c'est l'époque des Rap Contenders, c'était vraiment. Déjà, toi, tu étais en début de carrière, mais c'était très compliqué d'imaginer qu'un profil comme toi, en fait, c'est-à-dire un rappeur technique, un rimeur, allait pouvoir remplir une salle comme l'Accord Arena. Tu l'as déjà fait en 2023, tu vas le faire deux fois cette année. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est une consécration? Est-ce que c'est quelque chose de logique? Est-ce que parfois tu te rends compte quand même du chemin parcouru qui était complètement improbable il y a encore 10 ans?
Ouais, bah comme je te dis, pour ne pas se rendre compte de ce qui va se passer avant le concert, c'est une sorte de rêve, et lorsque tu arrives dans la salle, tu te rends compte que c'est plus un rêve, c'est réel. Et bah, c'est la même chose pour la carrière, c'est une sorte de rêve, et quand tu le fais, tu te rends compte de ce que tu es en train de réaliser. Mais pour tout ce qui est tout l'ensemble de ma carrière, j'y pense pas vraiment aujourd'hui, je me dis que j'y penserai peut-être dans 5-6 ans.
Okay.
J'essaye de garder une certaine sorte de naïveté.
C'est important?
Ouais, c'est important.
Ouais. Ouais. C'est pas trop dur de réussir à rester naïf, justement?
Cette année, c'était super facile parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur du pays.
Ok.
Et du coup, j'étais pas Dinos au quotidien.
C'est-à-dire qu'on te reconnaissait pas.
Ouais, voilà.
Ok.
Et donc, en vrai, j'étais pas.
T'étais pas un rappeur, quoi.
J'étais pas un rappeur.
Ouais.
Et du coup, t'as pas la pression du game,
etc.
Et je pense que ça fait beaucoup de bien de. En fait, ça dégonfle même ton ego. Parce que dans Paris, on va te reconnaître, on va prendre des photos.
T'as une vie de star.
T'as une vie de... Voilà. Ouais. Tu comment tu sors, comment t'es habillé, dans quel restaurant tu vas aller, comment, tu vois ce que je veux dire. Et quand t'es à l'étranger, bah, je suis en lime en vrai, tu vois. c'est grâce à...
En trottinette ou en vélo?
En vélo, c'est grâce à Koundé. Jules Koundé qui m'a rentré. On était qu'en lime en fait.
Attends, mais Jules Koundé, par contre, lui, sans vouloir te manquer de respect, il est connu dans plein de pays.
Bah,
peu plus que toi, vu que le football, ça a une portée internationale. Donc est-ce qu'il peut, rouler en lime, Jules Koundé?
On a passé pas mal de temps. Ensemble cette année.
Ouais.
Et en fait, les moments où moi où je disais, bah, viens, on fait ça, viens, on sort comme. Ils s'en foutaient. Ils disaient, mais viens, on prend des lives.
Ok.
Et tu vois, l'évolution de janvier à décembre, au début, je disais, pourquoi tu veux prendre un live? T'es un ouf, quoi. Et ils disaient, on s'en fout, viens, on prend des lives. Et voir quelqu'un qui est beaucoup plus connu que toi,
ouais, qui est beaucoup plus détente.
Tu vois ce que je veux dire, ouais. Et bah tu te dis, mais en fait, il y a rien qui est si profond que ça, en vrai.
Ouais, ouais.
Puis on prend un lime.
T'as l'impression peut-être que dans le milieu du rap, on se met presque plus de pression parfois que dans des milieux qui sont potentiellement.
Je sais pas.
Plus,
ouais. Mais après, on est des rap, je sais pas en fait. Si c'est le rap ou si c'est moi ou si
ouais.
Ou si c'est Paris aussi.
Tu vois. Peut-être aussi, ouais.
Mais c'est vrai que. Ouais, puis on prend un lime en vrai.
Ouais.
Tu vois.
Alors, et t'as aussi, donc, cette année sorti un projet évolutif.
Attends. On prend un lime, mais des fois on a des gamos aussi, ça.
Je sais, je vois.
C'est pas que du lime, mais c'est vrai que.
Non, mais le lime, en tout cas, c'est un peu une forme de symbole de liberté, en fait,
de
quelque
liberté,
part.
Ouais. Liberté, ouais.
Et je le disais, t'as sorti un projet, je sais pas si tu veux l'appeler comme ça, mais en tout cas, un projet évolutif, mm-hmm. Avec des morceaux que tu ajoutes. Mm-hmm. On y reviendra un petit peu après. Mais sur ce projet, y a notamment un morceau qui s'appelle DMX.
J'ai grandi jusqu'en haut du rinté, donc le coffre et le cœur sont blindés. J'ai jamais balancé, jamais plainté. J'ai jamais balancé, jamais plainté. Mais trouver le sommeil, du mal à trouver le sommeil. 911, j'ai pas de mi-père. J'vous baisse tous, j'ai pas de critères. J'me sens comme DMX. Brenda, Latisha, Linda, Felicia. Elle a les hanches et le boule délicat. J't'apprends comme en Bundesliga. Posé dans la tête avec un V8 bitch au bourreau, prise volée de Zinedine. Tu menaces au bigot, après tu fais Bernie. La cala fait danser le chilele. Le chilele. La cala fait danser le chilele. Tu menaces au bigot, après tu fais Bernie. La cala fait danser le chilele.
Mikaela, elle aime la night. Elle a deux phones comme un dealer baida. On mélange pas la mythe.
Donc, ça, c'est donc le morceau DMX en featuring avec Hamza, qui était lui aussi en concert à la Défense Arena d'ailleurs il y a quelques jours, on en parlait juste avant. Pour ce projet-là, c'était quoi justement? Parce que, tu sais, toi, je trouve que depuis Imani, il y a toujours une forme d'attente et même de pression peut-être pour toi sur tes projets, sur tes albums. Comme l'impression que toi aussi tu te mets beaucoup la pression, qu'un album à chaque fois ça doit presque toper le précédent. Et là, je crois que même toi tu l'as un peu vendu, en tout cas présenté plutôt comme quelque chose de récréatif. C'est ça que tu avais envie justement, juste de. Je crois que l'expression c'est je me suis amusé avec des copains, des copines. C'est ça que tu voulais faire avec cette suite de morceaux.
T'as une bonne analyse quand même.
Bah j'essaye hein.
Tu me connais bien.
Bah j'écoute depuis trop d'années.
Non, en fait, je vraiment vouloir faire de la musique sans autant de pression et prendre du plaisir.
Ouais.
Et avoir ce truc où tu vas en studio pour te faire kiffer. Quand on allait en studio à l'époque, les premières fois où j'allais en studio, tu sais, t'avais 2-3 heures que tu payais, parce que c'était cher les studios. Et quand tu payes ces heures-là, il faut que tu sois performant, mais il faut que tu kiffes en même temps. Et au fil des années, avec la pression, des fois, t'es plus dans
la performance et moins
la performance et moins le kiff. Et à un moment donné où c'est vraiment le fait d'être à l'extérieur du pays qui m'a fait réaliser ce truc-là,
ouais.
Où tu te dis « Ah, j'ai envie de kiffer en vrai. » Et j'ai juste envie de kiffer.
Mais ça veut dire
je m'en fous de ce que X ou Y va penser, j'ai juste envie de prendre du plaisir. Et en fait, j'ai envie de faire de la musique comme un enfant, comme quand j'étais jeune, et juste kiffer. Et je m'en fous d'essayer de faire la meilleure multisyllabique. On en a parlé.
Exactement.
Je m'en fous d'essayer de faire la meilleure multisyllabique ou quoi que ce soit. Et j'ai juste envie de presque faire une bêtise en vrai, tu vois.
Ouais. Est-ce que ça veut dire aussi peut-être sur les précédents projets, Kintsugi, Hiver à Paris, etc., qui ont des projets, enfin, je pense à Hiver à Paris notamment, qui a été apprécié par ton public, qui a marché. Est-ce que toi, mine de rien, tu prenais un peu moins de plaisir sur un projet comme celui-ci parce que peut-être il y avait beaucoup de stratégie, de vision, de challenge aussi, de pression?
Je dirais pas que c'est moins de plaisir. Je dirais que c'est des étapes différentes de ma vie, tout simplement.
Ouais.
Donc à ce moment-là, c'était une étape. Et là, triple A, c'est une étape. Et ce qu'il y aura demain, c'est une étape aussi.
Okay.
Tout est... En fait, il faut voir les choses comme des étapes. Et les deux Bercy, c'est une étape. Et ce qui arrivera après, c'est des étapes.
Mais ça, je trouve ça intéressant parce que même moi, en tant qu'auditeur, tu sais, parfois, quand t'es très attaché à la discographie d'un artiste, t'as tendance à tout comparer, tu sais. À dire, ah, mais cet album-là, ce nouvel album, il est moins bon. Donc ça veut dire que c'est moins bien. Et en fait, moi, un jour, notamment en pensant à des artistes comme Kanye, par exemple, mais il y a des projets que j'aime moins, et c'est pas grave, en fait, parce que, comme tu le dis, c'est des étapes, et peut-être qu'à un moment, l'artiste, il est dans une phase différente, et que tu le perds à ce moment-là, et que tu le récupères sur le projet d'après. Et en fait, je pense que c'est aussi pareil, que peut-être toi, tu vis ta carrière aussi comme ça, comme des moments différents. C'est pas grave si t'as pas tout le monde au même moment à chaque fois, en fait.
En fait, je l'ai compris avec le temps, mais tu viens de synthétiser vraiment ce que j'ai réalisé cette année, ce que je me suis dit. Et au-delà de ça, c'est que moi, je suis pas le type d'auditeur qui va, lorsque je perds un artiste en chemin, le détester ou quoi que ce soit. En fait, j'accepte que, par exemple, moi, J. Cole, c'est un de mes rappeurs préférés.
Ouais.
Mais ça fait juste, je sais pas, deux ou trois projets que j'aime pas forcément de J. Cole. Mais je kiffe toujours J. Cole.
Ouais, tu resteras attaché à ce gars-là.
Voilà, mais je vais pas l'écouter en vrai, tu vois. Parce que ce qu'il dit à ce moment-là, je le vis pas.
Ouais.
Et ce qu'il disait à une certaine période, ça me touchait énormément. Et la direction qu'il a prise, même les clips, l'image, etc., je me reconnais pas en lui.
Mm.
Mais j'aime toujours et je trouve toujours que c'est un putain de rappeur.
Ouais.
C'est juste que là, j'aime pas. Et j'ai ce truc-là parfois avec plein d'artistes. Mais c'est pas pour autant que je vais me dire. Vas-y, je l'aime pas, je le hate ou quoi que ce soit.
Ouais, bien sûr.
Donc en vrai, si t'aimes pas un artiste, ou en tout cas si c'est un artiste que tu aimais, et qu'à un moment donné tu te ressens plus dans sa musique, il y a 1 milliard d'artistes à écouter.
Exactement.
Et t'es pas obligé de... Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, complètement. Bah, sur ce projet AAA, il y a un morceau, et d'ailleurs, c'est celui dont on parlait, parce que je t'avais envoyé un message, parce que le morceau m'a surpris, mais je l'ai adoré. C'est le morceau avec Joe Doit Filer, t'étais pas là. Je te propose qu'on écoute.
Vas-y.
Qui est un morceau donc extrait de la première version, première mouture de AAA, Dinos, Joe Doit Filer, t'étais pas là.
Baby, j'étais Van Cleef, c'est pur la mode. Je viens de là où y'a pas trop d'amour. Mais y'a de la drogue, on sera jamais amis, j'en doute pas. On se dit pas c'est les Maberis. Pourquoi tu veux qu'on se dise c'est les Madubai? Taille de Casamigos, les bitches restent lit. Je repense à la Hesse, j'ai des PTSD. J'ai des PTSD. Tu parles de Gamos, de AP. Mais tu partages l'addition avec ta baby.
J'ai mon fan, j'ai l'air sur la AP. J'suis dans le Falcon, juste au-dessus de la Tessie. Vu que la paix s'achète, j'ai la boîte qui débite. J'suis partout avec elle, mais c'est pas ma baby.
T'étais pas là. J'ai fait des originales et tables. Y'a full de baby, j'ai booké une table. J'suis sur les champs, un appart qui fait le zénith. Tu dis que tu m'aimes, c'est parce que j'aime la délire. Mon baby beau, j'ai acheté des sables. Boy, c'est évident, parce que le boogie l'a fait du sale. Tu dis que tu m'aimes, c'est parce que j'ai le délire. Moi, j't'ai jamais vu avant.
T'étais pas là.
Marche avec la squadra fraîche, parle en voix grave, babe, parle en wagwan, dehors c'est la zecry. On se couche très tard, Prada c'est devenu trop cher, même pour le shaitan, la droite contre les yebis. Mais il me reste encore une main, donc je pop le champagne comme un pilote de Formule 1. Dompé, Clico, Carino, Kerico, fallait pas refaire tes lèvres, juste et chico.
Regarde, mon fan, j'ai l'air sur la AP. J'suis dans le Falcon, juste au-dessus de la Tessie. Vu que la paix s'achète, j'ai la boîte qui débite. J'suis partout avec elle, mais c'est pas ma baby.
T'étais pas là.
J'ai fait des originales et tables. Y'a full de baby, j'ai booké une table. J'suis sur les champs, un appart qui fait le zénith. Tu dis que tu m'aimes, c'est parce que j'aime la délire. Mon baby bouge, j'vais acheter des sables. Boy, c'est évidemment parce que le boogie l'a fait du sale. Tu dis que tu m'aimes, c'est parce que j'aime la délire. Moi, j't'ai jamais vu avant.
T'étais pas là.
Tu dis que tu m'aimes, c'est parce que j'ai v'là le délire. Moi, je t'ai jamais vu avant.
T'étais pas là.
T'étais pas là, gros.
Dinos et Joe Doit Filer, pardon, le morceau s'appelle T'étais pas là, et extrait du projet AAA.
France Inter. Mehdi Maizi. À la régulière.
Dinos, est-ce que ça, c'est justement un exemple aussi de morceau où t'avais juste envie de t'amuser avec un artiste avec qui on t'avait jamais vraiment entendu auparavant?
Ouais.
C'est ça, c'était ça le mood en studio, c'était viens, on s'amuse, viens, on rigole.
C'est de montrer une plus large palette, je dirais. Et tu vois, avant, quand t'as commencé l'émission, tu parlais du fait que, ça, il y a 10 ans, on était peut-être dans une case de rappeur,
ouais.
Certaines cases, et se dire qu'aujourd'hui, en vrai, j'ai juste envie de collaborer avec qui je veux collaborer.
Ouais, ouais.
Et pas nécessairement faire 14 minutes de multisyllabique et de passe-passe, en vrai. Tu vois.
Est-ce que ça, justement, à un moment, tu t'es senti... Pas toi en tant qu'artiste, mais peut-être dans le regard d'une partie de ton public un peu prisonnier d'une image, par exemple, je sais pas, le rappeur triste technique. Est-ce qu'à un moment ça t'a pesé ça?
Je dirais pas que ça m'a pesé parce que c'est la musique que j'ai faite. Donc c'est moi qui ai décidé de le faire.
Ouais.
Mais en fait, c'est juste des cycles qui se cassent en fait. Je suis quelqu'un qui aime bien casser les cycles dans ma vie de manière générale.
Ouais.
Donc je me réveille et je dis vas-y, je vais déménager là.
Ouais.
J'aime bien casser les cycles. Je me réveille et je me dis vas-y, je laisse pousser mes cheveux. Vas-y, je les coupe. Vas-y, j'aime bien vraiment, vraiment casser les cycles.
C'est marqué pédophile, justement, quand on le disait tout à l'heure, mais des étapes dans ta vie, des éras, comme on dit.
Ouais, j'aime bien les étapes. Et j'aime bien avoir des étapes aussi dans ma carrière.
Ouais.
Et après, voilà, il y a toujours une sorte de fil conducteur. Il y a toujours une sorte de froideur dans ma musique, de nostalgie, de mélancolie et de... Ouais, c'est ça en fait, simplement.
Quand tu fais une année comme celle que tu viens de faire, où tu disais justement que tu as quitté aussi Paris pour te ressourcer, pour avoir plus de liberté, est-ce que tu fais encore de la musique ou t'en fais plus du tout justement pour...
Tous les jours.
Ok.
Par contre, la musique, c'est le truc qui me fait... Le studio, c'est le truc qui me fait le plus plaisir au monde. Je peux pas ne pas faire de musique. C'est comme ça que je suis heureux, tu vois.
Ok.
Donc c'est pas nécessairement de la musique qui va sortir. J'essaye plein de styles différents.
Ouais, ouais.
Et vraiment, quand je dis plein de styles différents... C'est l'année où j'ai fait le plus d'expérimentation, tu vois. Et j'aime ce truc d'être... ouais, en fait, être tout le temps en studio et de kiffer, en vrai. C'est ce que je préfère. Et voyager, aller dans beaucoup de pays.
Ouais.
Et ne pas forcément le faire pour Internet, mais le faire pour moi, me ressourcer vraiment. Et faire du son partout, en vrai, tu vois.
Quand tu dis ne pas le faire pour Internet, c'est que t'as aussi peut-être eu besoin... Je sais pas, de te couper aussi du regard des gens qui te suivent, des réseaux.
Ouais, des fois, ouais, t'as besoin de te retrouver toi-même en vrai.
T'as l'impression qu'à un moment, t'as peut-être donné trop d'importance à ça ?
Je dirais pas que j'ai donné trop d'importance à ça, mais c'est ton métier en vrai.
Ouais. Donc, t'es obligé.
Il y a cette étroite. Ce lien étroit entre comment tu postes ta vie et comment tu postes ta musique et comment les gens te perçoivent. Et des fois, j'ai déjà vu des gens. Faire des choses, même des artistes ou quoi que ce soit, faire des choses juste pour Internet et aller à tel endroit et penser à leur tenue, à trucs, etc. Et donc des fois, c'est bien, tu vois. Mais des fois, t'as aussi envie d'être mal habillé et de se dire si j'ai de la sauce sur le t-shirt, j'ai de la sauce sur le t-shirt et c'est la vie. Parce que je suis pas en train de vivre un instant pour l'Instagrammer.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire. Et par contre, il y a des moments où tu reviens dans le truc et tu dis voilà, je dois être plus actif sur les réseaux parce que ça fait partie du métier. Comme, je sais pas, être sur Insta, être sur TikTok ou
quoi que ce soit. Bien sûr.
Ça fait juste partie du métier, mais il y a des moments où t'as vraiment envie de te retrouver toi-même, en vrai.
Tu disais que c'est en studio que t'es vraiment heureux, etc. Est-ce que, tu pourrais imaginer prendre une pause, mais une vraie pause ? Parce que, finalement, t'es très présent. Tu sors de la musique régulièrement depuis Imani. On a galéré avant d'avoir Imani, ton premier album. Ça, il y a eu une vraie attente. Et puis, depuis que c'est sorti, t'es rentré aussi dans un rythme, des albums aussi qui ont marché, donc j'imagine aussi que tout ça, tu rentres dans un game aussi, quelque part, tu deviens un artiste mainstream au bout d'un moment. Est-ce que tu pourrais l'envisager ça un jour, ou t'as bien peut-être sûr. Pas besoin de ça ?
Non, bien sûr, et entre Hiver à Paris et Kintsugi, j'ai fait 2 ans sans sortir de projet. Donc j'ai fait une année de pause.
C'est déjà pas mal, c'est vrai.
J'ai fait une année de pause et après j'ai sorti le projet.
Ça t'a fait du bien ça à l'époque ?
Ouais, charmé.
Ouais.
Parce qu'à un moment, j'avais même plus de réseau.
C'était
exceptionnel.
Mais quand même, c'est intéressant.
C'était exceptionnel. Mais en fait, je me suis réveillé et c'est pareil, c'est les étapes. Et je me dis, vas-y, fais-le maintenant.
Ouais, ouais.
Parce que peut-être qu'après, tu pourras plus le faire. Et j'avais plus de réseau pendant 6 mois. Et donc, du coup.
Et c'était bien.
C'était de la frappe. parce qu'en fait, t'es toi-même. Et je dirais pas que Dino, c'est un problème, mais t'es juste. T'as ce truc, je pense, quand t'es artiste où t'as une certaine dualité entre, tu vois, la vie de tous les jours. Et les spotlights, on va dire, tu vois. Et en fait, je voyageais de ouf et j'allais que dans les pays bizarres. J'allais que dans les pays nordiques. Après, bizarre, c'est pas... Mais j'allais que dans les pays où j'ai jamais été.
Ouais,
genre, j'ai fait beaucoup la Scandinavie. Okay. Je kiffais trop. Et j'étais personne. C'était exceptionnel.
Mais c'est quand même intéressant ce que tu dis parce que il y a tellement d'artistes qui ont connu le succès et qui disent la même chose que toi. Mais qui disent au bout d'un moment, les réseaux, ça nous étouffe. Je me souviens, le documentaire d'Angèle, par exemple, je pense à celui-ci là tout de suite, mais on sentait qu'à un moment.
Non, moi, ça m'étouffe pas. Ça m'étouffe
ouais, mais il y a un moment où t'as besoin de partir.
Non, t'as juste besoin d'avoir une bonne balance. Mais au-delà de ça, en vrai, pour ma typologie d'artiste, en tout cas pour moi, quand j'ai commencé la Zikmu, je pensais pas. Tu sais pas. En fait, tu penses pas à la célébrité. tu penses à être le meilleur rappeur.
Ouais.
Ou à être, je faisais des battles. Donc je pense à gagner des battles. Mais tu penses pas, en tout cas je trouve ça vicieux de penser à, on va prendre des photos avec moi, on va me reconnaître,
etc. Oui, oui, c'est pas pour ça que tu le fais.
Mais en fait, quand ça arrive, tu te dis, ah ouais, il y a ça aussi.
Ouais.
Et donc au début, t'es content, etc. Mais je pense que c'est important de garder un juste milieu entre, ce que t'es en qualité d'être humain et aussi ce que t'es en qualité d'artiste, en vrai, tu vois.
Tu te souviens de la première fois où on t'a demandé une photo?
Ouais, de ouf.
C'est vrai? C'était comment?
C'est Edge, je rappelle quand il y avait le Footlocker à Châtelet.
Bien sûr.
Je sais pas si, il est plus là.
À côté du Quick, là.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, ouais, bien sûr.
Dans la fontaine et tout.
Évidemment.
Je marchais comme ça et puis j'étais mal habillé et tout. Maintenant, Joe, il vient, il me demande une photo, tout ça. Maintenant, tu connais, moi je suis surpris, mais je peux pas montrer que je suis surpris. Parce que t'as déjà dit. T'as déjà, je reste. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ça va encore, mon frère, tranquille. Ouais, ouais, ouais. Prends la photo. Il part. Eh hey, gros, j'appelle tout mon répertoire. Eh hey, gros, il y a que mes manuels de photos. J'ai appelé mon frère en premier, je me rappelle. Eh hey, gros, je viens de prendre une photo là. Eh, hey, il y a un mec qui m'a demandé une photo, on y est et tout.
Ouais.
Putain. Et en fait. Ce qui te fait plaisir, à la base, c'est qu'on te parle de tes sons. Quand un mec, il dit, ouais, j'aime trop tes sons. Parce qu'il y avait déjà des gens qui me reconnaissaient. Et donc, ouais, j'aime trop tes sons. Ouais, j'aime trop ci, j'aime trop ça, j'aime trop ça. Et c'est vrai que la première fois que tu dis, ah, mais en fait.
Mmh.
Tu vois ce que j'ai
dit? Ouais, complètement.
Ah, mais en fait, et en fait, tu dis, ah, mais je suis en train de passer dans une autre, dans une autre dimension. Et le moment où tu passes de comment dire, pas trop connu à connu, tu réalises pas ce qui se passe. C'est après que tu te rends compte que t'es connu.
Ouais, ouais.
Genre connu, je me suis rendu compte après. Même quand j'étais, le moment où j'ai vraiment, où je me suis dit, je suis vraiment connu, j'ai réalisé bien après. Parce que je faisais toujours des trucs de mec qui est pas connu.
Oui, oui, ok, je vois.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'allais toujours avoir des comportements de mec. En fait, je me rappelle par exemple, j'allais au Five, et moi j'allais poster que je suis en train de jouer au foot.
Oui, tu disais là où t'étais, à l'endroit.
Il y a des mecs qui venaient pour que je chine leur CD.
Ouais.
Et en fait, je m'en rendais pas compte que ça peut être dangereux même, tu vois.
Bien sûr.
Et c'est après coup que je me suis dit, mais en fait, je connais, moi, je suis un ouf.
Ouais.
Et c'est les gens autour qui me, des fois, qui me disent, ouais, tu peux plus faire ça.
Dinos est avec nous jusque 23h. J'ai mentionné ton premier album, pas ton premier projet, mais ton premier album, Imani, qui sort en 2017. Je crois
27 avril 2018, je crois.
2018, autant pour moi.
Je crois.
Et sur cet album, il y a notamment ce morceau.
À vrai dire, j'ai eu du mal à démarrer. Ce matin, sans ton message dans lequel je me souhaite une bonne journée. Ni mon cœur, ni mon téléphone, je ne veux plus faire vibrer. J'ai tellement peur d'être seul, tellement peur d'accepter que c'est terminé. En panique, j'ai voulu faire une croix sur toi. Mettre un voile sur mon cœur, mais l'amour est un établissement laïque. J'ai mal à me dire que cette histoire est lointaine. Si tu savais comme je te déteste, tu saurais à quel point je t'aime.
Je me lève, je me rappelle que mes lèvres ne toucheront plus les tiennes. Les lumières s'éteignent en plein après-midi. L'impression d'être une ville sans soleil, Helsinki.
Tu vois, parfois, il y a des artistes qui ont des chansons signature. Si Marvin's Room est la chanson signature de Drake, est-ce que Helsinki est la chanson signature de Dinos? Même s'il y a des morceaux qui ont plus marché, peu importe.
Ouais, ouais.
Est-ce que tu penses que la Dinos Song, c'est Helsinki?
Tu sais que je ne m'étais jamais posé la question de c'est quoi le Dinos Song.
Moi, je pense que c'est ça.
Mais quand tu le dis comme ça, ouais, peut-être.
Est-ce que tu as l'impression, en tout cas, qu'il y a eu un avant-après quelque part? Parce que tu sais, tu étais déjà connu dans le rap français en vrai, tu vois, tu avais déjà, même avant Imani. Mais j'ai le sentiment que là aussi, t'installes quelque part aussi ce qui va être peut-être le mood Dinos pendant quelques projets, en tout cas ce qu'une partie du public va vraiment aimer chez toi. J'ai l'impression que moi, que c'est ce morceau-là quand même qui installe ça.
Helsinki, c'est une folle histoire. C'est que c'est un morceau que j'ai pensé avant de l'écrire. J'aimais bien. Je marchais beaucoup à l'époque entre la Courneuve et Aubervilliers.
Ouais.
Et en fait, à chaque fois, je traînais beaucoup à Aubert. Et quand je quittais mon quartier pour aller à Aubert, je marchais tout le temps. Et en fait, quand je marchais, je pensais à des morceaux, à des titres. Et j'avais ce truc où je pensais à, tu sais, le ressenti après une rupture.
Ouais.
Et je me dis, mais en vrai, il fait nuit à 14h, 15h. Et je me dis, mais où est-ce qu'il fait nuit à 14h, 15h? Et je me suis dit, ouais, la Scandinavie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti en Scandinavie, oui, c'est okay. Pas pour Helsinki, après.
Okay.
Et donc le premier truc que je suis allé, c'était à Helsinki, parce que bon, ça faisait presque 10 ans et je n'étais pas allé à Helsinki. Genre.
Donc tu es allé à Helsinki?
Ouais, je suis allé à Helsinki.
Après avoir fait le morceau?
Ouais, pour moi, j'ai fêté mes 30 ans à Helsinki.
Ok, incroyable.
Ouais, je suis allé à Helsinki pour mes 30 ans. C'est ouf. Mais, et du coup, ce morceau, je l'ai pensé. Après, j'ai fait la prod avec Stéphane. C'est un des premiers morceaux qui est sorti, que j'ai produit. Et j'ai mis... Il était facile à écrire parce que je l'avais pensé pendant tellement longtemps que je l'ai écrit d'une traite. J'ai eu... je l'ai enregistré 3 ou 4 fois et j'avais comme référence The Message de Dr. Dre.
Ok.
Et à chaque fois
que morceau exceptionnel sur Chronique 2001.
Exactement.
Qui est à la fin de l'album. Hein.
Exactement. Ouais. Et à chaque fois que je posais Helsinki avec Omar, on écoutait The Message, on se demandait si ça procurait autant d'émotions.
Ok.
Parce que ce que... Mon truc, c'était quand j'écoutais The Chronique, je me disais, mais comment l'album il peut sortir, sonner comme s'il venait de sortir? Et c'est un des albums qui me choque le plus de par le mix,
le master. Et qui est sorti en 99, et c'est vrai ça. Que t'as l'impression que...
Et quand tu l'écoutes, tu te dis, il pourrait sortir aujourd'hui.
Complètement.
Et ce serait toujours un classique, tu vois.
Ah ouais.
C'est un des seuls albums de rap, en tout cas, que je vois comme ça. Et je voulais vraiment avoir ce truc de, quand on écoute ce morceau, peu importe le moment où on l'écoute, il faut que le mec, il se dise, ça peut sortir aujourd'hui.
Sur ton avant-dernier projet en date, Kintsugi, il y avait aussi un morceau que j'aime beaucoup, avec deux plus jeunes rappeurs, en tout cas en collaboration, Lamano et Jola Green, et ça s'appelle D-Block Afrique.
Move, bitch, get out the way. Pose ton BPL à l'arrière du Benz. Pas besoin d'amis, on vient pour les M's. Je recharge la batterie comme si j'étais Dumps. 9 millichromés, 9 siliconés. On brille tellement, tu fais bluff, tu nous connais. Beaucoup de haters, mais rien d'étonnant, vont rien faire. Ils savent que mentir sur le Coran. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas démarré un fer avec une clé. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas démarré un fer avec une clé. Move, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way.
Quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger.
Move, bitch, get out the way. J'ai les frérots dans la cage, tu sais que j'ai pas le temps.
Exceptionnel, ce morceau.
Non, mais laisse le couplet de Jola Green. Oh.
On peut laisser si tu veux.
Vous couper le couplet. Mais pas vous couper le couplet de Jola Green. Ouais.
Parce que je veux te parler. Parce que j'ai des choses à te demander. C'est pour ça. C'est aucun manque de respect contre Jola Green. Mais j'ai aussi.
Il est incroyable son couplet.
Il est incroyable son couplet. Mais la Mano aussi qui a remanié une énergie aussi. De fou. Enfin, ouais. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est qu'il y a ces trois rappeurs avec des styles très différents sur ce morceau. C'est ce qui fait, je trouve, une bonne collab aussi. Est-ce que quand tu collabores avec des artistes comme ça, parce que je vais pas te vieillir, t'es pas un vieux, mais t'es plus installé aussi que, voilà, que des jeunes qui viennent d'arriver, est-ce que tu sens que ton statut il a changé? Même avec tes pairs, tu vois, avec des artistes comme ça qui font du rap aussi, qui te regardent pas comme un gars de leur génération.
Je t'écoute, mais j'entends que le couplet de la main.
Je vois que t'es en train de t'ambiancer. Est-ce que t'as l'impression d'être un peu plus un OG aujourd'hui?
Tu sais quoi, c'est comme ce truc que je te disais quand tu deviens connu, et bah c'est le même cheminement, mais je m'en suis rendu compte après. Je me rappelle la première fois que j'ai vu JRK19,
ouais.
Il était, il m'a check, etc., content, Dinos, trop, je t'écoutais quand j'étais cheapeux. Et je me dis, comment ça quand t'étais cheapeux?
Ouais, c'est bizarre. Hein.
Mais comment ça quand t'étais cheapeux, tu veux dire quoi là? Je dis, ouais, t'es un OG tout, moi je t'écoutais quand j'étais cheapeux.
Oh.
Et en fait, de là, je me suis dit, putain, mais c'est vrai en vrai que j'ai sorti mon premier album en 2018.
Ouais.
Et tu vois, donc...
Et puis, il y a peut-être des gens qui écoutaient L'Alchimiste avant, tu sais,
vois
qui
ce
est
que
sorti
je veux
vers
dire. 2014,
13, quelque chose comme
13,
ça.
2013. Et tu vois, en fait, quand il a dit ça, je me suis dit, putain, c'est ouf en vrai.
Ouais.
C'est en vrai, il m'écoutait quand il était cheapeux. Parce que mon premier album, il est sorti, il était cheapeux.
Exactement.
Et de ce moment-là, en fait, c'est plein de conversations quand tu rencontres la nouvelle génération. Où tu te dis, c'est vrai qu'on est une sorte de, on est une génération au-dessus par rapport à eux, comme moi quand je rencontrais peut-être la première fois que j'ai vu Youssoupha par
exemple,
oui,
exactement.
Quoi que ce soit, où j'aurais pu dire je t'écoutais quand j'étais
bien sûr.
Un peu, et aujourd'hui où c'est toujours un OG par rapport à moi, mais c'est quelqu'un que j'écoutais quand j'étais petit.
Ouais.
Et il faut l'accepter et se dire ouais c'est le moment où tu passes un autre niveau. Et je suis désolé de t'interrompre.
Non, je t'en prie.
Et ce qui est important pour moi justement, c'est d'avoir toujours dans mes albums. J'aime bien avoir des artistes émergents, des petits artistes, où je me dis, lui, il va être vraiment gros plus tard, même peut-être plus gros que moi, etc.
Mmh.
Et j'aime vraiment ce truc, parce que je trouve que ma génération, quand on arrivait, à un moment, il y avait peut-être un gap entre la génération du dessus et la mienne. Et moi, j'ai toujours eu ce truc de collaborer ou donner les fleurs aux OG, aux mecs au-dessus de moi, tu vois, qui m'ont inspiré, et je l'ai fait pendant des années, tu vois.
Ouais, ouais, complètement.
Et j'ai pas envie qu'il y ait ce gap entre la génération qui arrive et ma génération, et des fois ça fait raf parce que tu dis que les chippeux ils sont ensemble, mais des fois notre génération, presque on les regarde de haut.
Ouais, ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, pour ça que j'essaie toujours d'avoir des plus jeunes.
Alors, quelqu'un aussi que t'écoutais quand t'étais chippeux,
ouais.
Je pense que tu l'écoutes encore aujourd'hui,
ouais.
C'est un rappeur qui s'appelle Jay-Z.
Ouais.
Et j'avais envie qu'on se fasse plaisir et j'avais envie d'écouter un morceau de The Blueprint.
Ok.
Quel morceau t'aimerais écouter? J'ai choisi déjà, mais je veux juste savoir si on est raccord sur le morceau qui nous fait le plus plaisir de cet album The Blueprint.
Blueprint, c'est mon album préféré de tous les temps, de rap.
Bon, ben je savais.
Et t'as vu, c'est dire que je dirais pas que j'ai le morceau qui me fait le plus plaisir, j'ai le morceau qui me met dans, pour X ou Y état, mais mon morceau préféré, je crois, de la carrière de Jay-Z, il est dans cet album.
Et c'est quoi?
Et c'est pas par rapport à la technicité, c'est par rapport à l'émotion.
Mama Loves Me?
Ouais.
C'est pas celui-là que j'ai choisi, tu
vois. Attends, mais... c'est-à-dire que toi, attends. Bah attends, on va trouver.
C'est celui qui joue avec Mary J. Blige ou MTV Unplugged. Art of the City.
Il fait Art of the City. Ah ouais.
Je l'adore. Bon, en tout cas,
Il est bien. La prod est incroyable.
Lui est pas très technique dessus, ouais, mais c'est
le
pas grave.
Le morceau est incroyable.
Mais
le sample est incroyable.
Ouais,
c'est vrai.
Jay-Z, Art of the City. Donc extrait du plus grand album de tous les temps, selon Dinos. The Blueprint. Si, t'as dit ça.
Problem with hope. What's up, y'all niggas all fed up? Cause I got a little cheddar and my record's moving out the store. Young fuck spitting at me, young rappers getting at me. My nigga Big predicted this shit exactly. More money, more problems, gotta move carefully. Cause faggots hate when you getting money like athletes. Youngins ice grilling me. Oh, you not feeling me? Fine, it costs you nothing. Pay me no mind. Look, I'm on my grind, cousin. Ain't got time for frontin'. Sensitive thugs, y'all all need hugs. Damn, little mans, I'm just trying to do me. If the record's 2 mil, I'm just trying to move 3. Get a couple chicks, get them to try to do E. Hopefully they're menage before I reach my garage. I don't want much, fuck, I drove every car. Some nice cooked food, some nice clean drawers. Bird ass niggas, I don't mean to ruffle y'all. I know you waiting in the wing, but I'm doing my thing. Where's the love? Where's the love? And then the Fuji's gon' break up. Now every day I wake up, somebody got something to say. What's all the fucking fussing for? Because I'm grubbing more, and I pack heat like I'm the oven door. Niggas pray on my downfall. But every time I hit the ground, I bounce up like round ball. Now I don't wanna have to kill soundball. Don't wanna have to cock back the 4 pound ball. Look, strap, I got nephews to look after. I'm not looking at you dudes, I'm looking past you. I thought I told you cactus, I'm not a rapper. Can I live? I told you 96 that I came to take this shit, and I did. Handle my biz, I scrambled like Randall with his. Cut in hand, but the only thing running is numbers, fam. Jigga held you down 6 summers, damn, where's the love?
Ain't no love in the heart of the city.
Niggas, where's the love?
C'était Heart of the City, Jay-Z, The Blueprint, 2001, sorti le 11 septembre 2001, classique.
France Inter, à la régulière, Mehdi Maizi.
Fait plaisir de réécouter ça quand même.
Ouais, c'est chaud,
mais... Même si tu le connais par cœur. Tu n'as pas découvert grand-chose, mais c'est toujours chaud, un plaisir. Je voulais qu'on parle un petit peu du CD de AAA et du format de AAA, parce que okay. Finalement, c'est un projet évolutif.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est rendu possible aussi par la technologie, mm-hmm. par le streaming. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on peut modifier les mm-hmm. projets. Est-ce que tu avais un peu aussi envie de profiter de ce que le streaming propose, c'est-à-dire qu'un projet ne soit pas figé, justement, dans le temps?
Bien, en fait, je voulais pas...
Parce que c'est pas des rééditions, justement, on a déjà...
Non,
ça n'a rien à voir. C'est vraiment, c'est juste un projet qui évolue.
Ouais, bah après, le truc, c'est que je voulais pas sortir d'album, je voulais pas sortir de mixtape, je voulais juste sortir de la musique.
Ouais.
Et c'était le simple moyen de sortir de la musique sans se prendre de tête.
Et sans avoir à multiplier, parce que t'avais sorti vraiment des petits EP.
Ouais.
Là, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment un projet qui évolue.
Ouais, c'est ça.
Et alors, du coup, c'est intéressant parce que je me suis évidemment demandé, Est-ce qu'il y avait eu d'autres projets comme ça dans l'histoire? Bien sûr, il y en a eu un, et je pense qu'on va tout de suite penser au même. 2016, Life of Pablo de Kanye, qui donc est peut-être le premier album majeur à être revendiqué comme un album qui n'est pas fini au moment de la sortie. Et il le prouve, donc après la sortie sur Tidal, il modifie les mix, il change les voix, il réécrit des parties entières, le morceau Wolves passe d'une version à l'autre, Fade est retouché, Famous change de structure, et surtout, il ajoute même un nouveau morceau à la fin, Saint Pablo, morceau un peu méconnu, mais absolument sublime.
I know I'm the most influential. That time cover was just confirmation. This generation's closest thing to Einstein. So don't worry about me, I'm fine. I can see a thousand years from now in real life. Skate on a paradigm and shift it when I feel like. Troll conventional thought, don't need to question. I know it's antiquated, so sometimes I get aggressive.
Alors, The Life of Pablo devient alors un album en chantier permanent, mis à jour comme une application sur un iPhone. Une première dans l'histoire du rap et même dans l'histoire de la musique mainstream. On ne sait plus quand un album est terminé, le public vit dans le temps réel la construction de l'œuvre et Kanye montre que la plateforme peut devenir un atelier ouvert. Et ce qui choque à l'époque, c'est que pour la première fois, le disque n'est plus un produit fini, c'est un peu un flux continu. Une expérience d'ailleurs qu'il va rééditer en 2021 avec Donda.
Hey Miss Donda, you run into my mama, please tell her I said say something. I'm starting to believe ain't no such thing as heaven's trumpets. No after over, this is it done. If there's a heaven, you would think they let you speak to your son. Maybe she has in the form of a baby's laugh I heard passing by in a stroller, reminding me, hey, keep rolling, oh no. Maybe she has with the prick of a blade of grass I've been laying on way too long, got me itchy, got up and roamed a little more.
Alors c'est ça, c'est un extrait de l'album Donda, donc le morceau Life of a Party avec André. Life of Pablo qui est donc sorti en 2016. Tu me disais là quand on écoutait que c'est peut-être aussi un de tes albums préférés ever, ou même un album préféré de Kanye.
Le problème, je sais pas si on peut dire le problème de Kanye, c'est qu'il y a trop de d'albums, trop de moments que j'ai kiffé.
Ouais.
Mais je me rappelle en fait, ce qui est bien sur Life of Pablo, c'est que l'album est exceptionnel. J'ai mes morceaux préférés de Kanye, certains sont dedans.
Ouais.
Tu vois, Real Friends, c'est un de mes morceaux préférés. La prod est exceptionnelle.
No More Friends, c'est No More Friends.
Friends. Real Friends.
Real Friends, pardon, j'avais compris. Friends. We Are Friends.
Toi, tu parles de No More Parties in LA.
Exactement, ouais. Avec Kendrick Lamar.
Real Friends, c'est un de mes morceaux préférés. La prod est exceptionnelle. Comment ça a été fait, le sample, Frank Dukes, Ty Dolla Sign qui intervient. Mike Dean qui est en pétard au mix.
Ouais.
À côté de ça, t'as le Yeezy, je crois que c'est la saison 4, qui est exceptionnel, qui est interrompu, je crois, par Young Thug, à un moment qui branche son.
Ouais,
je play un morceau. En fait, tout ce qui est autour.
Le rollout, le merch, roll-out, Life of Pablo.
La pochette.
Ouais.
Quand il suit Life of Pablo, which one? On sait pas lequel.
Exact. Même ça, même la pochette n'était pas finie, enfin, elle n'était pas déterminée.
Rien n'est fini. Comment il market avec Kim à côté. Il y a trop de trucs,
ouais.
Ils s'embrouillent avec Kid Cudi, mais Kid Cudi revient, t'as Travis Scott qui est là, et il y a trop de trucs en fait qui se passent. T'as Frank Ocean que j'ai pas entendu depuis longtemps qui fait une interlude, t'as Sia à la fin de Wolves, t'as Chris Brown, t'as trop de trucs qui reviennent, t'as The Beautiful Morning, Father Stretch My Hands.
Ah oui, oui.
Tu vois, avec la prod, le
métro. C'est là aussi où on découvre Designer. Aussi, ouais, c'est sur Designer. Cet album-là aussi.
Il t'est déjà sorti le morceau. Mais
oui,
je
veux dire, tu vois, c'est à ce moment-là, ça cristallise en tout cas le moment aussi où Designer devait une superstar.
Ouais. Mais un de mes plus beaux souvenirs de vie en live, c'est qu'à cette époque-là, je l'ai vu faire le Sunday Service.
Ouais, waouh, wow,
j'ai vu
ça.
Je l'ai vu à Miami. Et c'est. j'ai pas les mots en fait. C'est un de mes meilleurs souvenirs de live de ma vie. Et c'est pas un concert
c'est
à part entière.
Concert,
c'est juste un moment où tu le vis, il y a des gens qui pleuraient et tout, et je comprenais. Tu vois.
T'as cité Frank Ocean, qui est présent sur cet album, et ça me fait une transition parfaite, puisque quelques mois plus tard, en 2016, un autre projet va bouleverser un peu l'idée du projet, un peu évolutif, mais d'une manière plus subtile, puisque Frank Ocean va sortir Endless, d'abord sous la forme d'un live stream vidéo de 45 minutes. On le voit construire un escalier dans un espace blanc, presque irréel. C'est une performance, une forme de geste artistique, mais Endless va évoluer à travers le temps. La version vidéo finit par être suivie d'une version audio avec des titres recomposés. Certains morceaux ont changé, d'autres ont été rallongés ou raccourcis, et l'œuvre devient alors une forme d'objet multiple. C'est plus un album, mais une expérience en transformation.
My head fatiguing off the opus, kept it underground of focus. I feel afterlife, six under oath, don't want no hocus pocus. Niggas trying to go pop, I draw contact with my face mask, nothing but net.
Is you Roger or Novak? You still are no match, you get no rematch. Boy, you missed your moment, put rules in the MoMA. I'm on my lonely, bursting tears on his shoulder, and it's so cold cause he's Scotia. Where's the shaman? Ayahuasca, WhatsApped him for atonement.
Et surtout, Endless est évolutif d'une autre manière, puisqu'il va permettre de libérer Frank Ocean de son contrat avec son label afin de sortir le lendemain Blonde en indépendant. Le côté évolutif de Endless est donc autant esthétique que stratégique. C'est un album qui change de forme pour changer le statut de l'artiste, qui se réinvente en direct et montre qu'un disque peut devenir un outil, un manifeste, un espace de création libre.
Tell them it ain't likely. Said she need a ring like Carmelo. You must be on that white like Othello. All you want is Nike.
2016, une belle année.
C'est qu'il a pas pris de ride ce morceau. Il a pas
pris
une ride.
Parfait, ça a bientôt 10 ans, c'est parfait.
Il prend pas de ride. Après, je crois que c'est. J'ai l'impression, en tout cas, quand j'entends les drums, j'ai l'impression que c'est de la TR-808. Et c'est la seule boîte à rythme qui prend pas une seule ride.
Qu'on utilise dans les années 80, qu'on utilise encore aujourd'hui.
Il a utilisé, je crois, la même dans Pyramide. Et la deuxième partie, c'est TR aussi. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'entends, on dirait que c'est TR. Et loin à TR, pour moi, c'est ma boîte à rythme préférée.
Ouais.
Elle prend pas une ride.
Alors, tu as cité Frank Ocean juste avant. Tu avais un morceau qui s'appelait Frank Ocean, qui était un morceau un peu marrant sur Taciturne, si je dis pas de bêtises. Je crois que sur Taciturne. Et donc, ça veut dire que je pense que tu es fan de Frank Ocean. Tu choisis quoi, Chanel Orange ou Blonde? Il y a deux teams un peu.
Tu sais qu'on se pose cette question tout le temps.
C'est une question cool.
Mais en fait, la question que je pose, c'est pourquoi les mecs ont toujours besoin de se faire de choisir des albums. T'aimes bien l'artiste, écoute l'artiste.
Non, mais c'est une question passionnée. Tu les as, ces questions, en studio avec Oumar, j'en suis sûr. Donc,
ouais, mais...
j'ai envie de l'avoir avec toi, offre-moi ce moment.
J'écoute.
Est-ce que t'écoutes plus Chanel Orange ou Blonde, en vrai? Moi, je sais Blonde.
En fait, je vais t'expliquer le queutreux. C'est que Chanel Orange, je me rappelle la sortie, parce qu'il y a le queutreux de... On est sur Tumblr.
Ouais, c'est une autre époque, ouais.
En fait, Odd Future, c'est les patrons de Tumblr.
Ouais.
Et en fait, c'est la première fois où nous, par exemple, moi, mec de quartier, je commence à me dire, attends, je vais mettre des vannes, c'est un délire, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Donc, il y a un truc où ça représente une époque où je me dis, mais c'est quoi ce délire de Californie? C'est quoi Fairfax? Pourquoi ils parlent de Fairfax? Pourquoi Loiter Squad? Je sais pas si je te rappelle.
Ouais, bien sûr, complètement.
Tous ces trucs-là. Et où Tyler, c'était vraiment spécial, etc.
Ouais.
The Internet. En fait, il y avait un...
Earl Sweatshirt.
Ouais, du seed, du truc comme ça. En fait, il y avait un truc spécial à ce moment-là. Et si je te dis Chanel Orange, c'est par rapport à l'époque. Et il y a un truc que je trouvais exceptionnel dans Chanel Orange, c'est l'écriture. Et il a un truc où, dans presque chaque morceau, il te met dans un cadre spatio-temporel. Donc quand il commence Thinking About You,
ouais,
il t'explique une tornade a fait que ceci. En fait, quand t'es en Californie du Sud, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Et dans chaque morceau, il te met dans un cadre spatio-temporel. Et tu sais où ça se passe.
Donc tu choisis Chanel Orange.
Et aussi, les prods, elles sont exceptionnelles.
Non mais c'est parfait, c'est deux chefs-d'œuvre, franchement. Des albums très... Ce qui est ça qui est cool par contre, c'est que c'est des albums très différents. C'est-à-dire que Chanel Orange et Blonde, c'est vraiment... On reconnaît Frank, mais je veux dire, la texture des albums, elle est vraiment
différente. Frank Ocean, c'est le seul mec, c'est de l'égoïsme. C'est le seul artiste pour lequel je suis égoïste. Et c'est le seul artiste, je crois, sur Terre, j'ai pas envie que sorte d'album. Parce que je peux être déçu de tous mes artistes préférés, mais lui, j'ai pas envie.
T'as pas envie.
J'ai grave pas envie. J'ai pas envie, tu vois.
Tu veux pas de nouvelle musique, c'est parfait comme ça.
Ça me dérange même pas que. Ouais. Tu vois, c'est égoïste. C'est le seul artiste sur Terre avec lequel je peux être égoïste. Je peux être déçu de Kanye, je peux être déçu de qui tu veux.
Ouais.
Mais Frank Ocean, pour moi, c'est.
On n'y touche pas.
C'est parfait comme ça.
Très bien. Bon, Dino, je propose qu'on écoute un morceau. Je voulais aussi parler, bon, on manque un peu de temps, de l'album Renaissance de Beyoncé, parce qu'elle l'avait aussi modifié pour des problèmes notamment de droit. Il y avait une plainte de Kellys sur le morceau Energy, etc. Qui est d'ailleurs un album extraordinaire, Renaissance. Mm-hmm. Mais tout de suite, je propose qu'on écoute un morceau d'une artiste qu'on a reçue ici il n'y a pas longtemps. Elle s'appelle Maureen, le morceau s'appelle Automatique, et c'est extrait de son tout dernier album.
Thank you.
Avec le morceau automatique.
Je le mets en favori.
Tu le mets en favori là ?
Ouais, direct.
Bah, c'est parfait. Tu vois, donc cette émission sert à quelque chose. Et donc c'est présent sur son album Queen qui vient de sortir.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Dinos, c'est l'heure des recommandations. Et j'ai demandé donc quelques recommandations musicales, cinématographiques. Mm-hmm. Et on va commencer avec tes recommandations cinématographiques, en tout cas une série. et une série dont tu parles depuis longtemps.
Des larmes sur le sol. Du sang sur les murs, si tu me demandes qui je suis, je te dirai que je suis perdu. Chacun pense à soi, chacun porte sa croix. Je fais confiance à personne, j'ai vu The Wire trois fois.
Je fais confiance à personne, j'ai vu The Wire trois fois. Ça fait une punchline.
tu sais que je me rappelle quand le morceau est sorti, t'avais tweeté ça.
À l'époque où je tweetais encore
je me rappelle. Il y a plein de gens qui avaient tweeté cette phrase.
Bah oui, parce que quand t'as vu The Wire, et que, ça raconte tellement de choses. Ouais. Pourquoi cette série est aussi importante pour toi? Est-ce que tu l'as vraiment regardé trois fois?
J'ai regardé trop de fois. J'ai regardé The Wire trop de fois.
Les cinq saisons à chaque fois?
En fait.
T'arrives à trouver le temps.
Il y a toujours le moment de la saison 2 où. Oh les docs.
Ah, j'adore la saison 2, moi.
Ouais, tout le monde. Moi, j'ai un problème avec
ça. Ah ouais, t'aimes pas? Ok. Franck Sobotka, Ziggy Sobotka, j'adore moi. J'adore.
Ouais, la saison 2, elle est longue, mais en fait, tu la comprends différemment au fil quand tu regardes. Et non, c'est exceptionnel. Il faut qu'on fasse une émission spéciale The Wire.
Avec tous les rappeurs qui parlent de The Wire tout
ouais,
le temps.
Après, je doute que tous les rappeurs connaissent The Wire. Des fois, il y a des qui en parlent juste pour.
Je pense que c'est un effet de mode parfois.
Ouais, de ouf. Ouais. Parce que des fois, t'as le truc de je veux dire, Marlowe, comme ça.
Avon, Stringer.
Et surtout, je doute que la série, elle est trop longue. Et des fois, elle peut être ennuyeuse.
C'est vrai.
Pas fan du que truc.
C'est un autre rythme aussi.
Ouais, c'est les anciennes séries.
Mais toi, je crois que t'es très fan des séries du BOZ. Enfin,
moi, de toute
Soprano.
Mes séries préférées, c'est The Wire et Soprano.
T'as pas regardé Oz?
J'ai regardé Oz, c'est bien Oz. Le seul problème, c'est que Oz, j'ai regardé ça il y a trop longtemps.
Ok.
Et il y a un problème avec les ayants droit, tu peux plus regarder Oz.
Ah, ok, c'est
mais tu vois, Adebisi, O'Reilly, tous ces trucs-là, c'est. Je trouve que c'est des personnages marquants, des personnages clés. Je trouve que ça te plonge dans un que truc dans l'univers carcéral et aussi, tu vois, les. Ça, en fait, c'est le même principe que The Wire. C'est de la corruption, des gens qui essaient de s'en sortir, des gens qui essaient, c'est des hustlers en vrai, tu vois.
Ouais.
The Wire, ce que je trouve fou, c'est quand tu comprends bien The Wire, je te jure que tu comprends plein de choses dans la vie aussi.
Ouais.
C'est comme quand tu regardes, je sais pas, le Parrain, par exemple.
Ouais, le Parrain, qui était aussi une reco que t'as fait. Hein.
C'est mes films préférés. Je dirais pas que c'est les films où il y a le meilleur acting, ou séries où il y a le meilleur acting, mais c'est ce qui me touche le plus, c'est presque... entre guillemets éducationnel. Je me rappelle quand j'étais petit, je regardais The Wire, je comprenais mieux mon quartier après.
Ouais. Ouais. Est-ce que t'as un personnage préféré dans The Wire? Quelqu'un qui te touche plus que les autres?
Ouais, j'en ai un.
C'est qui?
C'est qui le genre?
Moi, je pense que c'est classique, mais c'est Omar, je pense.
Ok.
Omar, c'est trop légendaire, c'est, okay. c'est trop, voilà.
C'est fou.
Toi, c'est Body.
Non. J'ai eu cette conversation hier avec un poteau. et mon personnage préféré, tu vas être surpris, Prop Joe.
Ah, Prop Joe, bah incroyable, légendaire, Prop Joe. Joe.
Parce que Prop Joe, en vrai, de vrai, de vrai, ça se voit, il a pas envie d'être une chaira, en vrai.
Ouais, tout à fait, il subit ça.
Ça se voit qu'il en a rien à foutre de la rue, en vrai. Mais il est en mode, hey, tu sais quoi, en vrai, de vrai, vos conneries là. Hey, j'ai pas envie, mais je suis là parce que j'ai pas le choix.
Ouais.
Donc ce que je vais faire, je vais te faire une proposition. T'as vu ? Je suis un bon, je te propose ça, tu refuses. Vas-y, viens, on essaie de trouver une autre proposition. Ouais, ouais. Tu refuses ? Bah, je vais te fumer, en vrai. J'ai pas le choix, je dois te fumer. Mais en fait, c'est dernier recours, il va te fumer. Ouais. En tout cas, au début. Après, des fois, il prend des directions où tu peux ne pas être fan. Mais à la base, des bases, ça se voit, il a la flemme d'être une chaire. Il arrive, tu le vois les premières fois qu'il arrive, il est en costume et tout. Et il a la flemme, en vrai.
Ouais, complètement. Complètement.
Il a, s'il pouvait quitter Baltimore, s'il pouvait genre quitter la rue, il quitterait la rue, en vrai. Mm. Mais il est là parce qu'il est là, en vrai. Et il arrive toujours avec une proposition. Il a pas envie d'être dans ça, mais
ouais,
il est
ouais,
dedans.
Tout à fait.
Tu vois, c'est comme. En fait, tu sais quoi ? Les personnages comme ça, c'est comme Manu Lecoq. Ou à la base des bases. Manu Lecoq dans la Cité de Dieu. Il a même pas envie. C'est un gentil en vrai. C'est un fomblard, Manu Lecoq, à la base. Tu vois. Mmh. Et après, au bout d'un moment, il se dit, gros, hey, tu sais quoi ? Là, j'ai pas le choix, on y est.
Ouais.
Tu vois ce que je veux
dire ? Ouais, complètement.
Et je kiffe ce genre de personnage. Hein.
Alors, autre recommandation, rapidement, mais t'as cité, je voulais qu'on en parle aussi, l'album d'un jeune rappeur dont on parle beaucoup, Timar.
Ouais, Timar.
Diamant, les diamants, les diamants. Ma peau est brute, mais elle brille comme jamais. Noir comme la riche essentielle, Léon. Je pleure les malheurs de Léon le 2. Même si les démons m'habitent, je crie pendant que le cœur y saigne. Je vis dans une vie éphémère, je peux pas tout donner. Les larmes ne font pas que
ça vient de sortir vendredi dernier. Voilà, tu te l'es pris, c'est un artiste que tu suis depuis quelques temps.
Ouais, Timar, c'est un artiste qui bosse avec Amin Farsi.
Ouais.
Amin Farsi, c'est vraiment mon frérot.
Un producteur.
C'est ça, un producteur qui bosse chez Aura Music, ouais. qui a la tête en ce moment. Et pour longtemps, je lui souhaite. Et c'est lui qui m'a parlé de Timar en premier. Il m'a dit, il faut vraiment que tu écoutes. C'est un mec que je produis, etc. C'est un jeune que je produis. Et j'ai penché l'oreille, c'est
exceptionnel. Ouais. Il a aussi un morceau sur l'album de La Fouine, qui est très chaud.
Qui est incroyable. Ouais.
Exactement.
C'est vraiment, vraiment trop fort.
Très, très chaud.
Ouais.
Dinos, c'est l'heure de la question qui tue. Je vais être honnête avec toi. À la base, je voulais te poser la question, quel est le meilleur album de Jay-Z ? Mais t'as déjà répondu, en tout cas ton préféré, t'as dit The Blueprint. Je pensais qu'il y aurait un peu de débat, mais j'ai l'impression que t'as choisi. Et du coup, étant donné que t'es un rimeur et un énorme connaisseur, et presque envie de dire étudiant du rap français, quel est pour toi, il croise les bras, quelle est pour toi la plus grande punchline de l'histoire du rap français ?
Oh mais c'est impossible !
C'est la première qui te vient à l'esprit comme ça, une rime qui t'a bouleversé. Parce que normalement souvent je demande quel est le plus grand album, mais je pense que c'est compliqué non. ça, tu vois, pour toi, il y en a trop.
Là...
Je sais que t'en as plein dans la tête.
Je te dirais, il y en a trop.
Il y en a trop.
Il y en a trop. Vraiment trop.
Ouais.
Mais je te dirais... on a l'âge de nos actes, la sagesse de leurs conséquences. Mais ce qui est sûr, c'est que l'homme qu'on devient dépend de l'enfant qu'on a été et de ses putains de blessures. C'est qui ?
C'est Lino.
Ouais.
Ouais, ouais, c'est Lino. Adaron,
Volek, Chateaubriand, Brave, je fais Just Grave, 95 rue Borsalino.
95 rue Borsalino.
Ouais, je crois que c'est ça.
Sur l'homme paradis assassiné.
On a l'âge de nos actes, la sagesse de leurs conséquences. Ouais. C'est ça. On a l'âge de nos actes, la sagesse de leurs conséquences.
Sur l'album Paradis Assassiné, qui était son premier album solo, ouais. qui est un super album. Souvent, je trouve qu'il est un peu. Enfin, il est peu cité. On cite beaucoup Arsenic à juste titre, mais c'est un très, très grand album.
Mais il y a plein d'autres, punchlines qui m'ont marqué. Hein. Mais je te dirais, en tout cas, une punchline qui marque, c'est les moments de vie.
Ouais.
C'est que du moment où je l'écoutais à aujourd'hui, et quand il dit l'homme qu'on devient dépend de l'enfant qu'on a été, plein de blessures. C'est
ouais, tout est dit.
Bah, en fait, l'entrée dans le son, c'est trop. Attends. Il y en a trop là.
Il y en a trop. Mais je pense que
Despo.
Personne.
Despo.
Bah oui.
Si la vérité est la forme d'hypocrisie la plus respectable, j'ai du mal à rester calme.
Ouais.
Mais j'enrage quand même le trajet, j'ai suivi de ça. Mais si qu'est-ce qu'il dit ? Si la politesse est la forme d'hypocrisie la plus respectable.
Je c'est pense dingue. Que personne ne sera choqué que tu cites Lino ou Despo.
Et ça, c'est un truc que j'ai dans Modus Vivendi par rapport à Despo. J'ai dit un truc dans le même esprit. Et c'est fou, je me rappelle plus des phases des gens que de mes artistes préférés que je ne me rappelle plus de ma phase.
Ouais, ouais.
Mais je sais que j'ai déjà un truc dans le même esprit par rapport à Despo.
Dino, c'était un plaisir de t'avoir, merci beaucoup. On rappelle donc que tu es Accor Hotel Arena les 21 et 22 décembre prochains.
Tu sais que ça se dit Accor Arena maintenant, c'est plus hôtel. Hein.
C'est l'Accor Arena alors. Voilà, je sais pas, moi, tu sais, je vais que dans les petites salles, tu sais. Je suis un ancien. Moi, je vais qu'à la maroquinerie. Mais voilà, Dinos, en tout cas, sera en concert à l'Accor Arena.
On se retrouve à l'Accor Arena le 21 et 22 décembre 2025.
Exact.
Let's go.
Exactement. Merci à Dinos et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission qui était préparée par.
Mehdi, c'est quoi ta punchline préférée, genre après ça?
Et Red One Della, une émission réalisée par Guillaume Giraud. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Gilles Gaillard et Mathias Saléon, et demain on sera dans cette émission en même heure avec Aboutal pour son tout nouveau projet Maison Sodate partie 2. Merci, à demain, même heure.
À la régulière sur France Inter, Mehdi Maizi.